Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
La louange comme un sacrifice. Et on va voir beaucoup de choses sur ce thème-là. Très important. Le mot sacrifice est très important dans la louange. Et c'est important de bien le comprendre. Ça se passe dans le commentaire dans l'Ancien Testament. C'était la seule manière d'apporter la louange. Dans le Nouveau Testament, on va voir un petit peu les nuances qui se passent. Mais il faut bien comprendre la notion du sacrifice pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par là. Donc je crois que l'adoration qui porte du fruit, c'est une adoration qui est donnée en sacrifice. Une adoration qui nous coûte quelque chose. Vous savez, on peut donner une adoration facile. On peut donner une adoration à bon marché. Et puis des fois, il y a une adoration qui est plus difficile, qui nous coûte. Et on sent que c'est difficile. Mais pourtant, on l'adore quand même. Mais cette adoration-là, elle porte plus de fruits. Ce que j'aime à dire souvent, louer Dieu quand tout va bien, c'est facile. Quand on est béni, quand on est rempli, quand on est touché, ça va très bien. Mais adorer quand ça va mal, c'est beaucoup plus difficile, mais ça a beaucoup plus d'effet dans nos vies. Parce que tu vas justement dans l'esprit opposé. Et quand tu as des difficultés, des luttes, des combats, et que là tu adores, waouh, ça fait une grosse différence dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme. Alors, je vous ai déjà parlé de la première mention de l'adoration dans la Bible. Vous vous souvenez d'où ça se trouve? Où est-ce qu'on trouve la première fois le mot adoré dans la Bible? Genèse 22, Abraham. Alors, on va voir ce texte un peu plus en détail maintenant. La première mention de l'adoration dans la Bible. Voilà. La première mention se trouve dans le texte de la Genèse, chapitre 22. Et c'est l'histoire d'Abraham qui va offrir son fils Isaac en sacrifice. Oui.
L'adoration faite même quand c'est la va mal.
Oui. Tout ça, c'est l'adoration qui porte du fruit. Quand tu adores, quand ça va mal, quand tu as des difficultés, quand tu es malade, quand tu as de l'opposition, tu adores Dieu, ça va porter du fruit dans ta vie. Tu comprends? Je vais l'expliquer dans tout ce message. Tu vas voir. Ça, c'est l'introduction, c'est le thème principal. Donc, on va lire Genèse 22 ensemble, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Donc, vous imaginez bien que Abraham, ça fait déjà 10 chapitres qu'il suit le Seigneur. Dans Abraham, dans Genèse 12, il obéit au Seigneur. Dieu lui dit, va au pays où je te montrerai. Là, il était très jeune. Après, il y a eu toutes sortes d'épreuves, des situations. Maintenant, il est à la fin de sa vie. Il a à peu près 100 ans. Hein? Et après toutes ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous imaginez ça? Ça fait 60 ans que vous suivez le Seigneur et que Dieu vous donne encore une épreuve. Des fois, on dit, Seigneur, c'est bon, je vais passer les tests maintenant. J'ai le diplôme de Libéto, je suis agréé dans mon église, tu me laisses tranquille. Dieu nous donne encore des tests, des épreuves. Avec Dieu, les examens, c'est jamais final. Les diplômes, c'est jamais final avec Dieu. Il nous donne toujours des occasions de prouver ce qu'on a. Ce qu'on a fait ou ce qu'on a réussi. Donc Abraham répond, me voici. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, il sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Donc c'était loin, hein, 3 jours de marche pour y arriver. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Là, la première fois, le mot adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, « Mon père, il répondit, me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc déjà, ça c'est le début de l'histoire, l'introduction. Alors je vais voir ressortir certaines choses de ce texte, l'exemple d'Abraham. Première chose, il obéit promptement. C'est marqué, Abraham se leva de bon matin. Vous avez remarqué? Nous, des fois, pour obéir à Dieu, on dit, attends Seigneur, je vais réfléchir jusqu'au soir, puis je vais réfléchir encore demain, et puis après-demain. Et puis finalement, on réfléchit tellement qu'on n'obéit pas. Il obéit rapidement à la demande de Dieu. Et ensuite, Dieu lui demande quelque chose d'incroyable. Il lui demande son fils. Donc, c'est quelque chose qui est important pour Abraham. Hein? Et il lui demande quelque chose qui a de la valeur. Et ce que Dieu nous demande toujours, c'est ce qui a le plus de valeur pour nous. Parce qu'il sait très bien que cette chose est en danger pour nous. Elle peut prendre la place de Dieu. Souvenez du témoignage que vous avez donné par rapport à la musique. Dieu m'a demandé de donner la musique. Pour moi, c'était ce qui avait le plus de valeur. J'avais mis tout mon avenir dans la musique, toute mon espérance, toute mon ambition. Je disais, ça va être mon métier, ça va être ma vocation, ça va être ce que je vais faire. Et ça avait, je pense, pris sa place. Et Dieu a demandé de reprendre la première place. Alors, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Pour quelqu'un, c'est peut-être le sport. Pour quelqu'un d'autre, c'est les vacances, d'autres le travail, d'autres la famille, d'autres, je ne sais pas, l'église même. L'église peut prendre la place de Dieu parfois. Et Dieu doit nous demander d'abandonner, de lui redonner l'église. Parce que comme beaucoup de pasteurs disent, c'est mon église. Dieu dit, c'est quoi ? T'as dit là ? C'est l'église à qui ? Ah, c'est mon église. Ah bon ? L'église, c'est l'église de Dieu. Hein ? Nous, on sert dans son église, mais ce n'est pas ton église. C'est l'église du Seigneur. Donc ensuite, le pire, le plus difficile, après ça, abandonner la réponse des prières. Vous imaginez que Isaac, c'était la réponse de la prophétie. C'était la réponse de la foi d'Abraham. C'est la réponse de ses prières. Il a toujours voulu un fils. Il a eu cette prophétie qu'il en aurait un. Il a cru, après il a moins cru, après il a de nouveau cru. Puis finalement, ce fils est arrivé. C'est une réponse incroyable. C'est le témoignage de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, de la prophétie accomplie. Et tout à coup, Dieu dit, renonce à ta prophétie. C'est ça que ça veut dire. Abandonne-la, sacrifie-la. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Et des fois, il faut sacrifier des choses très, très fortes. Donc même les promesses, lâcher les promesses que Dieu t'a données. Tu sais que Dieu l'a dit, tu sais que Dieu va le faire, tu sais que Dieu l'a fait, mais pour un temps tu comprends pas et Dieu te demande de lâcher. Par exemple, comme je disais, lâcher le ministère, lâcher l'église, pour un temps parce que Dieu demande, parce que ça a pris trop de place. Et on va le laisser reprendre, donner comme il veut après. Donc tes promesses et tes prophéties, même tu peux pas justifier quoi que ce soit en disant « Oui, mais j'ai eu une prophétie. » Ok, mais si le Seigneur change d'avis ou si le Seigneur va plus loin, tu dois accepter la suite. La prophétie était pour un temps, pour une saison de ta vie. Maintenant, il y a une autre étape et Dieu te demande peut-être maintenant d'aller dans l'autre sens. Il faut être prêt. Et tout ça, ce que ça nous enseigne, c'est qu'il faut sacrifier le meilleur. Si tu donnes pas le meilleur, c'est pas un sacrifice. Si tu donnes les miettes, si tu donnes les restes à Dieu, c'est pas le meilleur, n'est-ce pas? Si tu mets une petite pièce dans l'offrande, parce que de toute façon... Tu as une pièce en trois dans la poche, ok, tout le monde peut le faire. Mais quand tu sacrifies une somme importante ou une somme réservée à autre chose pour Dieu, ça c'est un sacrifice. Parce que ça te coûte quelque chose. Donc c'est intéressant de voir cet exemple d'Abraham qui a accepté tout sacrifier. Même que c'était incompréhensible au départ. Mais l'obéissance était primordiale pour lui. Et le sacrifice va toujours avec l'obéissance. Et Dieu, des fois, il nous demande quelque chose qui est fou, mais c'est parce qu'il veut voir notre obéissance. Et souvent, c'est ça. Et dans l'adoration, aussi, on démontre l'obéissance à Dieu. C'est pour ça que ça va beaucoup plus loin que chanter des chants. Si c'est juste chanter, tout le monde peut chanter. Même un inconverti peut venir à l'église et trouver la mélodie sympathique et taper dans les mains et chanter. Mais est-ce qu'il est réellement un adorateur? Ça, c'est autre chose. Un réel adorateur, il va sacrifier des choses pour Dieu. Un autre exemple de sacrifice, le sacrifice de Caïn et Abel. Vous connaissez aussi cette histoire. Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux sacrifices, mais il y a deux résultats. Pourquoi? Pourtant, on pourrait dire, mais les deux, ils ont sacrifié quelque chose. Ça montre que parfois, le sacrifice, ça ne suffit pas. Et qu'on peut faire un mauvais sacrifice ou un sacrifice avec une mauvaise attitude. Et que Dieu regarde au-delà même du sacrifice. Avec quel esprit, avec quel cœur tu fais sacrifice? Parce que si tu dis, oh Seigneur, je viens au culte et je vais te louer, mais je n'ai pas envie. Tu fais un effort, tu fais une sorte de sacrifice, mais ce n'est pas le vrai sacrifice. Parce que tu le fais par la loi et pas par la grâce. Donc, un, il paye avec sa sueur, avec un cœur aigri. Il a travaillé, hein, il a transpiré sur la terre. Il a labouré, il a travaillé. Et il dit, Seigneur, tu vois comme j'ai travaillé pour toi. Mais son cœur est fâché, irrité. Et l'autre, il offre avec amour son animal. Il peut, bien sûr que cet animal, il l'a nourri, il l'a fait grandir, mais en même temps, il n'a pas fait grand-chose. Hein? Et il l'offre avec amour. Donc voilà la différence, c'est aussi le cœur du sacrifice. Ce n'est pas juste le sacrifice, Dieu ne regarde pas juste la somme. Et on connaît l'histoire aussi de Jésus dans le temple qui observe ceux qui mettent. Il y a la veuve qui met une pièce et il y a le pharisien qui met une grande somme d'argent. Hein? Et Dieu dit... qui met en valeur la veuve, même si la somme était beaucoup inférieure. Son cœur était bien plus droit. Et ça, c'est la clé. Donc, Dieu fait ce qu'il veut de notre sacrifice. Il y a un moment où il faut sacrifier. Mais il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas la somme qui compte pour lui. Dieu, il a l'or et l'argent. Il a toutes les richesses. Dieu, il n'a pas besoin même de notre agneau, de notre bélier, de notre bouc, de notre 100 francs, de notre 1000 francs, de notre 1000 euros. De notre transpiration. Seigneur, tu as vu comme j'ai travaillé pour toi? Je me suis levé à 6 heures, j'ai jeûné, j'ai lu ma Bible, j'ai fait ça. Tu ne peux pas augmenter la faveur de Dieu à cause du poids de ton offrande. Par contre, tu peux incliner le cœur de Dieu en offrant le vrai sacrifice avec un cœur sincère. Un cœur juste, en accord avec lui. Ça, c'est la clé de cette histoire-là. Une autre histoire. Offrir un sacrifice à Dieu. David. Quand on a fait l'étude des chroniques, j'ai sauté ce texte, mais là on y revient. David a péché, il a dénombré le peuple. Vous connaissez cette histoire? C'est dans 1 Chronique 21. Et puis là, il réalise son péché. Dieu le reprend. Donc, il dit, comment je vais pouvoir rétablir la relation avec Dieu? Parce que le péché nous sépare avec Dieu. Et à un moment donné, il faut revenir à Dieu. Dans 1 Chronique 21, on a ce texte qu'on va lire ensemble. Verset 22. David dit à Ornan, il se trouve là sur le territoire du pays, il a dénombré le peuple. Et pourquoi Dieu ne voulait pas ça? Parce qu'il savait qu'il allait se confier dans son chiffre plutôt qu'en Dieu. Dieu a dit, ne compte pas tes soldats, je suis ta forteresse, je suis ton rocher. David a dit, je vais quand même compter pour être sûr. Hein? Il y avait le doute. Et là, Dieu le reprend et il y a la peste qui se répand dans le pays et beaucoup meurent. Et là, il confesse, il demande pardon, mais ensuite, il veut faire un geste. Alors là, dans le pays, à l'endroit où il se trouve, il n'attend pas de rentrer à Jérusalem, il dit à Ornan, qui se trouve ici, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, le froment pour l'offrande, je donne tout cela. » Et la suite du texte, « Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Intéressant. Très intéressant. Ornan, c'est un serviteur. C'est un homme juif qui connaît le roi. Il sait que le roi, à l'époque, il a droit sur tout. Le roi, il est le chef de la nation. Si le roi dit « je prends », il peut prendre. Personne ne va s'opposer. Quand le roi dit « je veux offrir un sacrifice », il dit « je prends tout. Prends même les bœufs, prends le bois, prends tout. » Puis David, qu'est-ce qu'il répond? Et c'est là qu'on voit le cœur de David. Je veux l'acheter contre sa valeur, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Il ne va pas profiter de la situation. Des fois, on donne des choses à bon marché. Tu vois, Seigneur, il y a une bonne action là, 3 pour 2. Hein? Multipack. Hein? C'est moins cher. Je te donne, Seigneur. Mais Dieu ne peut pas agréer cela. Et la différence entre un shelem ou un hola, c'est deux sacrifices différents dans l'Ancien Testament qui peuvent être traduits par sacrifice suivant les textes. Ben là, il parle bien de holocauste. Hein? Holocauste, hola, c'est une offrande entièrement consumée. C'est-à-dire, quelque chose, il n'en reste plus rien. Tu prends un animal, tu le donnes, tu le sacrifies, il ne reste plus rien pour toi. Vous savez, à une époque, il y avait la désolation d'Israël, le peuple avait rejeté Dieu. Et même les sacrificateurs étaient éloignés de Dieu. C'est l'histoire de la naissance de Samuel avec le prophète Élie, hein, le sacrificateur Élie. Et ses deux fils, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les sacrifices. Les gens venaient au temple, ils offraient des sacrifices et eux, ils prenaient dans la marmite les meilleurs morceaux de viande et ils se servaient. Et Dieu a dû les condamner d'une manière sévère parce qu'ils profitaient alors que Dieu voulait recevoir ses offrandes complètement consumées. Donc, c'est intéressant, là, David, qui aurait pu profiter de la situation, il offre un sacrifice complet. Il offre un sacrifice entièrement qu'il paye pleinement. Même qu'il aurait pu profiter et l'obtenir gratuitement, il sait que ça n'aurait pas pu plaire à Dieu. Donc, ce qu'on apprend de David, c'est qu'il donne à Dieu des choses qui ont de la valeur. Dieu sait la valeur des choses. Même s'il n'a pas besoin de l'argent, il sait la valeur des choses. Surtout la valeur que ça a pour nous dans notre cœur, dans nos pensées. Et nous aussi, nous le savons bien, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Donc, ne pas profiter de la situation, Dieu voit et attend le meilleur. Nous, on donne souvent le bon marché. On donne ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, ce qui ne nous coûte pas trop cher. On sacrifie pour Dieu. Mais ce n'est pas un vrai sacrifice. On donne en partie. Sacrifice, parfois, il t'enlève autre chose. Il t'enlève une certaine ressource, un certain moyen. Et Dieu le voit, et Dieu est honoré de cela, et Dieu va te bénir de cela. Mais c'est un acte spirituel. Donc le don, il est total et complet. C'est pour ça que l'Ancien Testament, il était consumé. Il ne pouvait pas en rester. Même pas les prêtres pouvaient profiter. Par contre, ils offraient d'autres fois des animaux aux prêtres pour les nourrir. Ils s'en occupaient aussi des prêtres. Mais le sacrifice principal était donné à Dieu. Il était consumé. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'offrir un animal, mais l'esprit est resté. Le cœur est toujours là. Dieu attend à ce qu'on se donne complètement. Alors, ce n'est pas facile. Hein? Et pourtant, on chante souvent ça. Vous avez tous déjà chanté plusieurs fois. « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. » Etc., etc. « Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que... » Tout avec bonheur. Waouh, c'est une belle chanson. C'est beau à chanter, hein. Mais est-ce qu'on va, quand Dieu nous rappelle ça, ouh là là, tu te souviens que tu avais chanté ça dimanche? C'est lundi, j'attends ton offrande. Et ça peut être de l'argent, ou ça peut être un temps, ça peut être un geste, ça peut être une obéissance, ça peut être beaucoup de choses. Mais tout d'un coup, Dieu il nous rappelle ça. Et c'est pas facile. Et ce que David a fait, c'est qu'il a payé avec ses propres ressources. Il dit, « Ah, mais Seigneur, tu vois, il y a mon frère là qui va te faire une belle offrande. Tu connais, lui, il est riche là. Je compte sur lui. Hein? » Comme dans l'église, des fois, on compte sur des hommes, des personnes. « Ah, mais lui, il va nous aider. » Dieu dit, « J'attends ça de toi. Donne ce que tu peux. Donne ce que tu peux et fais un geste dans ma présence. » Alors la clé, toujours, dans toutes ces situations-là, pour toutes ces personnes, c'est le cœur. Le cœur de celui qui offre le sacrifice est primordial. Et on le voit très bien dans le psaume 51. C'est aussi le psaume de David. Hein? Vous connaissez ce texte? Psaume 51, verset 18-19. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables, ô Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. C'est étonnant, hein? Et pourtant, c'est un psaume, donc c'est dans l'Ancien Testament. C'est David qui écrit, qui vit à l'époque des sacrifices et du sacrificateur. Il dit, Seigneur, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Et pourtant, toute la semaine, toute la journée, ils offrent des holocaustes à Dieu. Mais n'importe quoi peut se transformer en un rite religieux. Et on peut oublier l'essence de ce qu'on fait. Les gens, ils veulent avoir bonne conscience. Et alors, je vais faire mon petit sacrifice et tout ira bien. Même aujourd'hui, dans les églises évangéliques, charismatiques, les gens disent, je vis en culte et tout ira bien. Mais le reste du temps, ils vivent sans Dieu. Dieu ne peut pas se satisfaire de ça. Dieu veut voir ton cœur. Un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ce n'est pas le cœur brisé par le monde, le cœur brisé par les chagrins d'amour. Ce n'est pas ce même cœur brisé. Hein? Ça, c'est autre chose. Quelqu'un a analysé les chansons qu'on entend à la radio. Il a remarqué que 90%, 90% des chants sont écrits à cause d'un cœur brisé, d'un chagrin d'amour, d'une fille qui m'a laissé tomber. Elle est partie, je suis tout seul, c'est terrible, je chante ma douleur. Et voilà. C'est juste une autre mélodie, une autre parole, mais ça veut dire ça, quoi. Hein? Et tout le monde écoute ça, ça fait tellement de bien, hein, de penser qu'on n'est pas tout seul, qu'il y en a d'autres qui ont aussi le cœur brisé. Et on est encore plus mal, et on écoute encore ça. On croit que ça fait du bien, mais ça ne fait pas du bien. Ça fait encore plus de mal de réécouter la souffrance des autres et puis de se sortir dans cette situation. Bon, c'est une parenthèse. Hein. Donc, le cœur brisé dont Dieu parle, ce n'est pas ce cœur-là. C'est un cœur qui accepte de renoncer, qui accepte de... Parce que ça brise le cœur de se soumettre parfois, hein, d'obéir, de laisser tomber nos ambitions, mais de le faire par amour pour Dieu. Ça, ça porte du fruit et c'est important. Donc, Dieu cherche notre attitude, notre cœur, en plus de notre sacrifice. C'est le plus important. Dieu, il a déjà toutes les richesses. Ces choses en soi n'ont pas de valeur, mais pour nous, elles en ont. Donc, c'est pour ça qu'il nous demande. Quand tu fais un sacrifice pour ta fiancée, pour ton fiancé, quand tu renonces à regarder un match de foot pour parler avec ta chérie, oh là là, ça c'est quelque chose, surtout si c'est le début. Hein. Et ça va continuer, normalement, si tu aimes. Vraiment, tu es d'accord. Et vice-versa, peut-être qu'elle va renoncer à une soirée romantique pour regarder un match de foot avec toi. Hein? Ou pour aller faire une promenade, ou pour aller dans un magasin de chaussures. Monsieur qui n'a pas envie de voir toutes ses chaussures pendant une heure, madame, elle va avoir du plaisir. C'est un sacrifice pour l'un ou pour l'autre. Mais ça, c'est dans l'amour, dans la relation, on accepte. Alors, c'est un autre niveau hein, que Dieu, mais quand même, ça reflète quelque chose. Ça reflète un choix, un désir, un amour. Oui ?
La question, c'est, est-ce qu'en fait, le qui manque pour que la louange, la tombe, tout ça, est-ce que ce n'est pas la passion ? Parce que si tu n'es pas passionné, tu n'as pas envie de faire.
Exactement. Oui.
Et puis l'ancien, il a dit de ne pas chanter ses chants parce que ça peut avoir des gens qui ne sont pas prêts à donner, à te donner, donc il ne faut pas chanter. Mm-hmm. Donc on a dû enlever de la liste de la louange parce que voilà, il ne faut pas chanter, qui chanter et donner quelque chose. Mm-hmm. Mais je me suis dit, ouais, mais en fait, le qui manque, ce n'est pas ça, c'est la passion. Parce que si tu es passionné pour Jésus, tu renonces à tout, tu donnes.
Exactement.
Si tu es passionné par Dieu, ça ne coûte pas vraiment.
Exactement. La grande différence, le sacrifice, tu le fais quand tu aimes. Combien on dit les amoureux, ils sont fous, ils font n'importe quoi. Quelqu'un qui n'aime pas téléphoner, tout d'un coup, il téléphone pendant 2 heures avec sa chérie. Hein? Quelqu'un qui n'aime pas se déplacer, il va faire 100, 1000 kilomètres pour aller voir sa chérie parce qu'il est passionné, parce qu'il a envie de la voir. Avec Dieu, est-ce qu'on est prêt à faire ce même sacrifice-là? Si on aime Dieu, oui. Et autrement pas. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que Jésus a dit, ce qu'on a vu ce matin. Quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu. Les sacrifices, tout ça, je vous enseigne, ça découle de ça. Mais la base, on revient à cette base. Si tu aimes Dieu, tu fais ces sacrifices. Si c'est religieux, automatiquement, ça ne va pas marcher. Et très vite, tu calcules. « Oh Seigneur, il faut que je te fasse des sacrifices. Ah oui, c'est vrai. Combien je t'ai donné? Je vais faire mes calculs. Attention, la dîme est 10%. Et puis on calcule. Mais ça ne t'amène aucune joie à toi et aucune joie au Seigneur. Mais quand tu dépasses...
Comme avec confiance, mais ça fait plaisir quand tu vas au magasin et tu regardes un petit cadeau vois 15 balles, mais tu regardes un autre et tu dis, oh, mais celui-là, il est magnifique, et puis il coûte 1000 balles. Mais... Alors, mais on donne quand même, ça fait plaisir. Mm-hmm. C'est ça, mais adieu. Le Kedavi l'a fait. Le Kedavi l'a fait, c'est ça, mais il était passionné. Puis,
voilà.
À l'église, il faut qu'on soit passionné.
Amen, ma sœur. Amen. Soyons passionnés pour Jésus. Et là, on va offrir des bons sacrifices agréables. Regardez la Nouvelle Alliance. Le sacrifice dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Parce que là, on était toujours dans l'Ancien Testament. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. Et c'est très intéressant. Vous avez déjà cité ce verset de Hébreux 13, versets 15 et 16, qui pour moi rend des fondements aussi du Nouveau Testament, de la louange. Il y a Jean 4, il y a Hébreux 13. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, offrir la louange comme un cadeau, c'est quelque chose qu'on donne. Hein? On ne peut pas vendre la louange. Dieu ne veut jamais acheter notre louange. Il ne va jamais dire au culte, par prophétie, « Église, louez-moi, j'ai besoin de votre louange, j'attends là, c'est le moment. Si vous ne voulez pas, je peux vous donner une bénédiction. Hein? » Dieu ne veut pas faire du troc, du marchandage, des affaires. Il reçoit le cadeau qu'on lui donne. Et un cadeau, pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'il soit donné. Oh, ok, je te donne, si toi aussi tu me donnes. Des fois, les gens sont comme ça. Hein? Ok, je vais te faire un cadeau, mais toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Hein? Dieu, il n'est pas comme ça. Donner sans cesse. Il parle d'offrir sans cesse à Dieu. Donc, il n'y a pas de limite dans le temps. Hein? Ça, on l'a déjà vu aussi plusieurs fois. On donne quelque chose qui nous coûte, puisqu'il dit que la louange, c'est comme un sacrifice de louange. Il met ces deux mots ensemble. Donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice, comme dans l'Ancien. Il n'y a plus d'animaux, de béliers, de boucs et de tout ça. Mais il y a quoi? Il y a un sacrifice de louange. Donc, Dieu agrée ce sacrifice. Et c'est le parfum qu'il accepte aujourd'hui. Avant, c'était le parfum des animaux consumés. Maintenant, c'est le parfum de nos chants, de nos cœurs, de nos bouches, de nos vies qu'il reçoit. Et tout ça... c'est confesser son nom, tout simplement. C'est-à-dire que ça doit être, c'est une prise de position. Je confesse, je crois, je suis là. C'est ça le sacrifice de la Nouvelle Alliance qui se manifeste. Donc, Hébreux 13, souvenez-vous bien de ce verset, utilisez-le. Et avec ce seul verset, vous donnez déjà un grand enseignement sur la louange. Offrande, don, louange qui coûte et confesser son nom. Mais on a encore un autre exemple dans le Nouveau Testament, on a plusieurs, qui est très intéressant. Un cadeau de grand prix. Et on va lire un texte dans Jean 12, verset 3. Vous connaissez cette histoire. Là, on va voir la passion, vraiment. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on fit un souper, Marthe servait, Lazare était avec, et un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous connaissez cette histoire, hein? Mais je le prends dans le contexte de la louange. Elle donne quelque chose qui a une grande valeur, une très grande valeur. Quelque chose de très important pour elle, puis aussi pour Jésus. C'est important, hein? On va lire la suite de ce texte, puis après je vais faire tout le commentaire. Dans ce texte, tout à coup, il se passe quelque chose. Là, j'appelle ça la critique. Un des disciples, Judas Iscariote, on sait comment il a fini, hein, celui qui devait le livrer, dit, donc ça montre déjà dans son cœur, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Ça, c'est l'esprit religieux. Tout à coup, il a toujours une bonne raison pour reprendre les autres. Et regardez ce qu'il est. La Bible dit même, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc il s'intéresse même pas aux pauvres. Hein. C'est pour lui. Mais il utilise un bon argument religieux. Hein. Oh, on pourrait au moins donner ça aux pauvres. Puis le pauvre, c'est lui. Hein. Alors qu'il n'est pas pauvre, mais il profite. Hein. Et c'est fou, la Bible donne vraiment le cœur des gens hein, dans les situations-là. Et Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Donc, il accepte son offrande. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Waouh! C'est presque choquant, là, comme Jésus dit ça. Hein? Et si ça veut dire que les pauvres, il y en aura toujours, ils vont toujours rester. Et puis, que vous pouvez vous en occuper. Il y en a qui aiment rester pauvres, puis il y en a qui vont bien s'en occuper, d'autres pas du tout. Bon, c'est un autre problème. Mais il y a quand même une réaction très forte à ce cadeau. Et chaque fois qu'il y a un cadeau de Dieu, pour Dieu, puissant, il va avoir de la réaction. Quand quelqu'un est passionné, ça dérange les autres qui ne sont pas passionnés. Et c'est là le gros problème qu'on a aussi dans la louange. Regardez. Alors, je commence cela. Est-ce que c'est un sacrifice, un cadeau ou une religion? L'amour pour Dieu ou la religion? La question qu'on peut se poser. Elle fait un cadeau de valeur. La valeur de ce parfum représente à peu près 30 000 francs suisses, 20 000 euros. C'était le prix du salaire d'un ouvrier. Pour une année. Donc c'était sa seule richesse. Vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de choses matérielles. Marie, elle était dans sa chambre. Elle a regardé ce qu'elle avait. Et quand elle a vu sa chambre, elle avait peut-être un lit, une chaise, une petite lampe, un livre peut-être. Et puis, un parfum. Un parfum qu'elle avait eu peut-être en héritage ou qu'elle avait économisé toute sa vie pour acheter. Pour son mariage, c'était quelque chose de valeur. Et voilà, elle le donne. Donc, elle donne le meilleur pour Dieu. Elle ne donne pas les miettes. Hein? Elle donne le meilleur. Ça, c'est fort pour nous. Ensuite, elle dépasse les convenances humaines. C'est-à-dire que, à l'époque, on ne pensait pas que c'était forcément fait. On ne faisait pas ça. Une femme qui se met au pied d'un homme comme ça, c'était plutôt une prostituée. Hein? Donc là, elle fait quelque chose qui est incompréhensible humainement. C'était normal de laver les pieds de quelqu'un, mais on lavait avec de l'eau, et c'était les serviteurs qui faisaient ça, ou les servantes. Et là, elle est amie de Jésus, donc elle n'est pas servante, et en plus, elle le fait et avec ses cheveux. Elle démontre quelque chose d'incroyable, qui dépasse. Mais passe tout à coup, pour elle, un acte, c'était plus qu'un chant ou une prière. Vous savez, si on reprend bien le contexte, l'histoire commence, Jésus était chez Marthe et Marie avec Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Donc ça signifie qu'il y a peu de temps, Lazare était mort. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est juste avant dans le chapitre. Lazare est mort et quelques semaines après, Jésus revient à la maison. Parce que Jésus passait toujours dans cette maison quand il allait à Jérusalem. C'était des amis. Et là, j'imagine, vous vous souvenez quand Lazare est mort, Marthe et Marie, elles étaient très fâchées quand Jésus est arrivé. Parce qu'au début que Lazare était malade, Marthe et Marie, elles étaient pleines de confiance. On dit, pas de problème, Lazare est malade, mais nous, on a Jésus, c'est notre ami, tout ira bien. Elles envoient quelqu'un pour chercher Jésus, et puis Jésus n'arrive pas. Jésus est en retard. Jésus arrive trop tard. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça. Jésus, t'es en retard, ça ne va pas. Mais vous savez, Jésus, il est toujours à l'heure. Pas à notre heure à nous, mais il est à son heure à lui. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'elles font, Marthe et Marie? Elles courent. Mais c'est trop tard, Jésus, il est déjà mort. Ils étaient même fâchés, ils ont presque enguirlandé Jésus. Hein. Tu es vraiment en retard. Puis Jésus dit, t'inquiète pas, tu verras la gloire de Dieu. Bon, toute l'histoire, Lazare est ressuscité. Incroyable, miracle. Là, elles sont bouleversées. Et voilà maintenant, un mois après ou cinq semaines plus tard, Jésus repasse dans la maison. Marie, elle a eu le temps de réfléchir. Hein. Depuis cinq semaines qu'elle dit, elle dit, incroyable, Jésus, je l'ai critiqué. Je me suis fâché avec lui parce qu'il nous avait abandonnés. Et voilà qu'il est quand même venu et qu'il a ressuscité mon frère. Qu'est-ce que je pourrais faire pour Jésus? Qu'est-ce que je pourrais, comment lui dire merci? Je pourrais lui écrire une lettre. Ouais, mais ça suffit pas. Et je pourrais lui composer une chanson. Ah, mais je joue pas très bien de la guitare. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire un bon gâteau. Moi, je sais pas faire les gâteaux. C'est Marthe qui fait toujours les gâteaux. Qu'est-ce que je pourrais faire pour Jésus? Et je suis sûr qu'elle a réfléchi à la meilleure chose à donner à Jésus. Et quand Jésus est arrivé, elle avait préparé dans sa tête. Jésus est là, je vais lui donner mon parfum. Je vais lui offrir ce qui a le plus de valeur, lui montrer que ce qu'il a fait, c'est plus que tout. Il a ressuscité mon frère. Donc, elle fait quelque chose qui est un acte. Lui dire merci, ça suffisait plus. Lui chanter une chanson, ça suffisait plus. Et ça, ça monte le niveau de l'adoration. Il y a une fois où le chant, ça suffit plus. C'est comme avec ta femme ou ton mari, si tu dis je t'aime, mais que tu es toujours assis dans le fauteuil à attendre. Va dire, ok, si tu m'aimes, tu vas m'aider à sortir les poubelles, à nettoyer la maison, à ranger le jardin, et on va montrer comment on s'aime. Hein? On va travailler. Il se passe quelque chose. Il y a un acte qui prouve que tu aimes la personne. Je vais t'aider. Je vais partager. Donc, l'adoration, on tombe vraiment dans l'acte, dans l'adoration, dans l'obéissance, dans la mise en pratique. Et Jésus l'a fait. Pardon. Marie l'a fait. Et c'est ça qui est important. Jésus accepte cela devant les religieux, devant Judas qui critique. Marie n'est pas condamnée, mais c'est Judas qui est repris. Pourtant, il avait une bonne pensée bien religieuse. On va s'occuper des pauvres. Hein? Mais dans l'occurrence, dans la situation, Jésus a accepté. Il a vu le cœur de Marie, il savait que c'était juste. Il a accepté sa passion, il a accepté son amour, il a accepté cet acte. Et il savait qu'il pourrait s'occuper des pauvres dans d'autres situations, à d'autres moments. Et Jésus l'a prouvé dans son ministère qu'il s'est tout à fait occupé des pauvres dans plein de situations. Mais là, c'était juste. C'était un sacrifice passionné, un cadeau pour Dieu. Ce n'était pas un acte religieux. Donc, il ne s'agit pas de copier religieusement pour montrer à tout le monde ce qu'on sait faire. Un sacrifice, ce n'est pas fait pour montrer à tout le monde. Mais là, en l'occurrence, il y avait deux ou trois personnes qui l'ont vu, peut-être plus avec les disciples. Mais en tout cas, elle l'a fait sincèrement comme s'il n'y avait personne. Elle a donné à Jésus le meilleur. Tu avais une question ? Oui, c'est Marie et sœur Lazare. Il y a un autre texte dans la parole où il y a une autre femme qui a fait la même chose. Oui. Mais ce n'était pas elle. Donc, on a plusieurs exemples de femmes qui ont fait ça pour Jésus. Mais là, en l'occurrence, c'est la Marie, la sœur de Lazare, qui a fait cette œuvre-là. Donc, l'exemple de Marie nous enseigne, elle a tout donné, sa plus grande valeur. Elle a donné un parfum précieux de bonne odeur. Donc la louange, c'est comme un parfum. Dans l'Ancien Testament, dans le temple, on offrait des parfums. Et c'était l'autel des parfums, vous savez, dans le tabernacle. Hein? L'autel des parfums représentait la louange. Et Dieu disait qu'il sentait une odeur agréable quand il y avait un sacrifice, quand il y avait un autel qui était bâti, quand on brûlait un animal. Dieu disait, je sens l'odeur agréable du sacrifice. Ça veut dire, je comprends, je reçois le cœur de cette personne. Là, c'était un réel parfum. De bonne odeur, mais plus que l'odeur du parfum, c'était l'odeur du cœur de Marie. Elle a dépassé les limites. Vous savez, des fois dans la louange et l'adoration, on nous met des limites. C'est comme ça et pas comme ça. Et comme donnait l'exemple de notre sœur, on limite des choses, on empêche certains chants, certaines expressions. Tu peux louer, mais tu ne peux pas danser. Tu as le droit de chanter, mais tu ne peux pas improviser. Tu ne peux pas chanter en langue, ou tu ne peux pas lever les mains. On met toutes sortes de limites. Et on l'a vu, la Bible ne met pas ses limites. Donc, qu'est-ce qui met les limites? C'est le système humain, religieux, qui limite. Alors que Dieu nous demande de dépasser parfois les limites, pas pour provoquer, pas par rébellion. Ce n'est pas le même esprit, vous comprenez hein? Marie, il n'y avait aucune rébellion, aucune provocation, juste de la passion. Dépasser les limites par passion. Donc, elle a donné plus qu'un chant ou qu'une prière. Et une vraie adoration va toujours dépasser ça. Et quand on commence à chanter, Dieu commence à nous parler. Et je crois que c'est très bien même de chanter des chants qui des fois nous interpellent. On dit, mais ce chant, il est beau, il est magnifique, mais je ne suis pas encore en train de vivre ça. Mais le chant travaille nos cœurs et nous pousse à agir par la suite. Donc si on attendait d'être arrivé pour chanter tous les chants, ben on ne chanterait rien. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on chante qu'on n'a encore pas appliquées, mais les chants nous aident à les installer dans nos cœurs. C'est la même chose avec les versets bibliques, avec la parole de Dieu. On reçoit des choses qu'on pratique petit à petit, qu'on prie et qui petit à petit commencent à s'installer dans nos vies, à s'appliquer. Donc, elle a abandonné aussi ses ambitions. La situation de Marie, c'est qu'elle était célibataire et qu'elle espérait se marier. Sans doute, comme toute fille célibataire, cette époque qui n'existait pas beaucoup sans le mariage. Et ce parfum, c'était le parfum pour son mariage. Elle a dit, ok, je renonce même à mon mariage pour toi, Seigneur. Je renonce même à cette richesse. Et par là, elle démontre son amour, sa passion pour Jésus. Et je vous rappelle que Jésus l'a accepté. C'était très extraverti, très fort, très public, très visible. Et Jésus l'a accepté. Donc, parfois, c'est juste. Mais on peut sentir, je crois, quand c'est religieux, quand c'est copié, ou quand c'est sincère. Hein? Vous allez très bien le voir dans les situations de vie réelles. Une équipe de Jeunesse en Mission travaillait en Hollande pendant des années, dans le quartier rouge de Amsterdam, où il y a beaucoup de drogue, beaucoup de prostitution, beaucoup de choses difficiles. Et dans ce quartier-là, ils ont touché pas mal de gens. Et un jour, ils faisaient la fête de Noël avec Jeunesse en Mission, dans leur base, qui se trouvait tout près de cet endroit. Et il y a une des femmes qui était une ancienne prostituée qui avait été touchée par Dieu, qui était là pour cette fête de Noël. Et à la fin de, pendant cette fête, le responsable, qui était Floyd McClung, qui était un des grands responsables de Jeunesse en Mission pendant des années, qui était là, il a dit, on va maintenant faire un cadeau à Jésus. parce que c'est Noël, c'est la fête de Jésus, et on va offrir nos cadeaux à Jésus. Et plein de gens sont venus, il y en a qui ont chanté, il y en a qui ont dansé, il y en a qui ont prié, il y en a qui ont apporté des offrandes, etc. Et cette femme-là était là bouleversée, c'est la première fois qu'elle voyait ça, elle ne savait pas quoi faire. Et à un moment donné, elle est venue devant, elle s'est mise à genoux, puis elle a dit, j'offre ma vie, je n'ai pas d'autre chose à offrir. Je n'ai pas de cadeau, je n'ai rien, mais moi je me donne à Dieu. Et je pense que c'était le plus beau cadeau qui puisse arriver dans cette journée-là, dans cette fête-là. Même si elle n'avait pas d'argent, même si elle n'avait pas de gestes, si elle n'avait rien préparé, ce qu'elle a donné, c'était le plus profond de son cœur. Et je suis sûr que Dieu a été touché. Tous ceux qui étaient là ont été vraiment touchés de voir ça. Donc la meilleure offrande, c'est notre vie pour le Seigneur. Encore un texte du Nouveau Testament qui est très très fort, que j'aime beaucoup. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, et on peut rajouter et sœurs, hein, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En lisant ce texte, j'ai vraiment creusé et réfléchi. Je me suis dit, il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle un paradoxe, un sacrifice vivant. Si on prend les deux mots, voyez le mot sacrifice, tousia, ça veut dire victime. C'est une victime, quelqu'un qui va être victime, qui va mourir. Et puis vivant, c'est le contraire, zao, c'est être vivant, avoir la vie en soi. Donc d'un côté, on a une victime, une mort, et puis d'un côté, on a un vivant. Et Dieu dit, il les met les deux ensemble, il dit, je veux que tu sois un sacrifice vivant. Comment je peux être vivant et mort? Comment c'est possible ça? Comment je peux être un mort vivant? Hein? Alors c'est quoi être un sacrifice vivant? Je vais essayer de comprendre ça. Et en réfléchissant, en creusant le sujet, je crois que vous n'avez pas fini, ça a été trop vite. Sacrifice vivant, tousia, sacrifice vivant, zao ou zoé, être vivant, avoir la vie. Donc dans Romains 12, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc Dieu veut nos corps, on se dit ok, sacrifice, il faut aller sur l'autel, il faut brûler. Puis en même temps, attention, lisons tout le texte, vivant. Alors je dois être vivant, mais je dois être quand même sur l'autel, sous le feu qui brûle. Mais je suis vivant, je ne suis pas mort. Comment je fais ça? Regardez, sacrifice vivant, le meilleur exemple c'est Isaac. On a lu le texte tout à l'heure. Isaac, il est avec son père Abraham. Abraham monte sur la montagne. Et quand il monte, Isaac pose la question à son père. Papa, tu as pris le feu, tu as pris le bois, mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Il connaissait son père, il savait que son père offrait des sacrifices régulièrement. Donc il se dit, aujourd'hui il y a un problème, il manque quelque chose. Il manque un ingrédient primordial pour la recette. Hein? Pour la situation, il manque quelque chose. Donc il commence à réfléchir dans sa tête. Il se dit, oulala, papa il a une drôle d'idée aujourd'hui. Hein? Et puis Dieu, il lui répond très spirituel, Dieu pourvoira. T'inquiète pas, tout ira bien. Donc Isaac il continue, il suit. Quand il arrive en haut, papa prépare les pierres, prépare le bois, prépare le feu. Et tout à coup, il dit à Isaac, c'est prêt, tu peux monter. Vas-y, c'est prêt, je vais t'attacher, prépare-toi. Isaac, il est vivant. Ça aurait été plus facile s'il était mort. Peut-être par derrière, en marchant, son père l'égorge et le porte. Il n'a rien vu. Non, il est vivant. Isaac, il a 10, 12 ans. Abraham a 100 ans. Isaac, il peut courir beaucoup plus vite que son père. Hein? Ouh, il s'enfuit. Fini, oh, je suis sauvé. Merci Seigneur. Non, il reste. Il est vivant avec sa volonté, avec son énergie, avec son corps. Et il reste. Et son papa lui dit, monte, et il monte. Waouh, ça c'est un sacrifice vivant. Parce qu'il a encore son intelligence. Il sait qu'il va souffrir. Il sait qu'il va mourir. Il a sa volonté, il a son choix, et il accepte. Parfois, c'est plus facile d'être un sacrifice mort que vivant. Ben, tue-moi, et c'est fini, on oublie tout. Et je ne sentirai plus rien. Mais là, il est vivant, et il accepte. Donc ça montre ce que c'est un sacrifice vivant. Ça veut dire que Dieu, il veut voir que tu acceptes d'abandonner tes choix, tes ambitions. C'est ça être un sacrifice vivant. Ou, d'une autre manière, dire renoncer à ses droits. Jésus dit ça tellement souvent dans les évangiles. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Donc si tu es mort, c'est facile de renoncer, tu es mort, tu as tout renoncé. Mais quand tu es vivant, tu as tout devant toi et tu renonces aux choses qui sont devant toi. Ça, c'est plus difficile. Donc, être un sacrifice vivant, c'est renoncer, c'est abandonner, c'est lâcher. Et ensuite, s'offrir de manière vivante, volontaire. Dieu veut que tu sois vivant. Ça, c'est la grande différence dans le Nouveau Testament qui est fondamentale. Et aussi la différence de l'Évangile avec les autres religions. Dieu veut ta bouche, tes mains, tes pieds, ton corps, ton intelligence, tout ce qui est vivant en toi. N'est-ce pas? Si tu es vivant, tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Si tu es mort, c'est fini. On peut raconter ta vie, on peut dire il a fait ci, il a fait ça, mais maintenant il ne fait plus rien. Hein? Il le loue peut-être là-haut, mais ici il ne fait plus rien. Tandis que si tu es vivant, tu peux témoigner, tu peux aimer, tu peux aider, tu peux servir, tu peux évangéliser, tu peux prier, tu peux intercéder, tu peux louer, tu peux faire beaucoup de choses. C'est pour ça que Dieu dit qu'il veut se servir des vivants et pas des morts. Psaume 115, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais les vivants. Dans l'Église, on a dit tellement souvent, « Ah, bientôt, quand on mourra, on sera vers lui et on pourra le louer. » Bien sûr que dans sa présence, il y a la louange, il y a les anges et tous ceux qui sont vers lui le louent. Mais en attendant, on ne va pas attendre ce jour-là, non? On ne va pas attendre de mourir pour être des adorateurs. On est vivant et d'être vivant et de l'adorer, c'est beaucoup plus fort. Parce que ça montre que ta volonté en action, ta vie, ton intelligence, ton corps, avec tout ce que tu es, tu choisis de l'adorer. Regardez comment aujourd'hui, cette chose est très réelle dans le monde dans lequel on vit. Dieu veut quelqu'un de vivant. J'écris un chant qui reprend un peu toutes les paroles de ce thème. Je vous mets juste les paroles de ce chant, peut-être que vous le connaissez. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions. Car tu es ma vie et ma passion. À tes pieds merveilleux, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Probablement qu'on chantera jeudi soir. Et vous réfléchirez à tout ce que j'ai pu vous enseigner sur le sujet. Ça vous aidera peut-être à prendre la portée de ces paroles, qui sont toutes inspirées de ces textes que je vous ai lus. Le sacrifice d'Abraham, de Romains 12, d'Hébreux 13, etc. Donc, en parlant de ce sacrifice vivant, je prends 5 minutes de plus pour terminer et après on prendra un autre sujet. On fait la pause juste après. Plus que le sacrifice, c'est l'obéissance. Le sacrifice est très important, mais ce n'est pas un substitut à l'obéissance. L'adoration n'est pas un acte religieux. 1 Samuel 15, 22 nous dit ça très clairement. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Là, on revient dans l'Ancien Testament. Et pourtant, déjà, il y a une anticipation de ce qui va se passer. Dieu dit, bien sûr que vous m'offrez des sacrifices, bien sûr qu'il y a des holocaustes, bien sûr qu'il y a tout ça, mais je préfère votre obéissance. Ça veut dire, ne vous cachez pas derrière un sacrifice. Ne vous cachez pas derrière un chant de louange. Ne vous cachez pas derrière une prière. Ce qui est important, c'est l'observation de ma parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que justement, l'obéissance, c'est un sacrifice. Et un sacrifice vivant. Ça démontre que tu es vivant. Le sacrifice, c'est mort. C'est fini, c'est brûlé, c'est consumé, il ne reste plus rien. Tandis que ta vie, elle est vivante, elle reste vivante pour lui. La vraie obéissance, c'est de s'offrir en sacrifice vivant. Nous sommes des sacrifices, donc des sacrificateurs ou, je dirais même, des adorateurs. C'est la même chose. Donc vous voyez la portée du mot adorateur. Aujourd'hui, j'entends tout le monde qui dit dans l'Église les louangeurs. Excusez-moi, ce n'est pas biblique du tout. Dans la Bible, ce n'est jamais marqué louangeur. C'est marqué seulement adorateur. Louangeur, ça veut dire celui qui donne des louanges sans discernement. Donc un louangeur dit, oui, c'est bien ce que tu fais. mais il en pense tout le contraire. Hein? Donc j'espère qu'on n'est pas des louangeurs et qu'on est vraiment des adorateurs. Je sais que ça vient de nos amis québécois qui ont des termes des fois un peu bizarres. Puis je comprends ce qu'ils veulent dire, mais dans un autre sens, soyons bibliques dans nos termes, dans ce que nous utilisons. La Bible dit adorateur. Donc si vous voulez être des adorateurs, vous êtes des sacrificateurs, des gens qui offrent des sacrifices et Dieu accepte ces sacrifices. Donc, vous le savez, nous sommes tous des sacrificateurs. Apocalypse 5, 10 et 1 Pierre 2, 9. Ces textes sont très connus. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. C'est les sacrificateurs qui vont régner. Ceux qui offrent des sacrifices à Dieu sont ceux qui vont dominer sur cette terre avec Dieu, avec sa présence. Et 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes le sacerdoce royal. Les Lévites, c'est vous maintenant. C'est nous. On fait tous partie des Lévites. Ce n'est plus une tribu spéciale. Ah, la louange, c'est pour toi. Ça, c'est ton truc à toi. Toi, tu es musicien, c'est pour toi la louange. Non, c'est faux, et je le dirai sans cesse. C'est faux. La louange, c'est pour tout le monde. On est tous des sacrificateurs. Que tu sois dans la salle, sur la scène, que tu sois pasteur, musicien, serviteur, diacre, vous êtes tous des sacrificateurs. Et Dieu attend cela de notre part. C'est notre ministère aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent se plaindre, disent « Oh Seigneur, moi je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de ministère, je ne suis pas comme toi qui as un ministère. » Qui tu as un ministère. On a tous reçu en tout cas deux ministères. Le ministère de l'adoration, du sacrificateur, et le ministère de la réconciliation. De réconcilier Dieu avec les hommes et vice-versa. Donc, on est tous appelés à ça déjà. Et après, peut-être que Dieu donnera une autre position, mais c'est déjà tellement important ça. N'attendons rien de plus, soyons des sacrificateurs pour lui. Amen.